Les vivants et les dieux, symboles et religions, par Michel Cazenave.
On sait combien Hölderlin a été l'un des plus grands poètes de la langue allemande de la fin du XVIIIe siècle et du tout début du XIXe siècle. Hölderlin qui, à travers sa poésie, a voulu traquer, si l'on peut dire, jusqu'à l'essence du langage et trouvant précisément le langage défaillant par rapport à tout ce qu'il se sentait devoir exprimer, a éprouvé toute la réalité du manque, du vide, ou pour user d'un vocabulaire beaucoup plus moderne, le manque d'un réel au-delà de tout réel ou dissible ou pensable. Et de ce point de vue-là, on n'est pas étonné effectivement de voir comment Hölderlin peu à peu a dérivé vers ce que l'on appelle la folie. Et à travers ce travail du langage, travail poétique, mais au sens platonicien qu'on trouve par exemple dans le dialogue du Lion, c'est-à-dire de la poésie inspirée, du moment où on est pris par les puissances divines, on sait à quel point quelqu'un comme Heidegger s'en est emparé ensuite pour essayer de voir comment précisément on y trouvait ce qu'il appelait la clairière de l'être. Et il se trouve qu'Hölderlin, vers la fin de sa carrière poétique, avant d'entrer en folie, s'est beaucoup intéressé à l'un des plus grands philosophes grecs de l'Antiquité, c'est-à-dire Empédocle. Empédocle qui a mis en scène la dialectique entre l'amour et la haine, et d'une certaine façon qui est le lointain ancêtre de Freud dans son principe, dans sa pulsion de mort, si l'on peut dire, ou dans sa pulsion érotique. Empédocle, en même temps, qui a pensé que l'âme était à la fois dans le corps, qu'elle était à la fois hors du corps, héritant de des deux plus grandes traditions de la philosophie grecque, et qui a exprimé l'ensemble de ses préoccupations, l'ensemble de ses saisies à la fois poétiques, métaphysiques et philosophiques du monde dans ses catharmes, dans ses purifications, et qui finit sa vie finalement en se jetant dans un volcan, geste absolument énigmatique, qui ne cesse de faire réfléchir depuis les siècles où il s'est produit. Et à travers cette réflexion, à double détente en quelque sorte, sur la mort, sur la vie, sur l'amour, sur la haine, sur le pouvoir du langage, sur la poésie, sur le rapport à l'être, sur le rapport au Dieu, a été monté un spectacle à la Maison de la Poésie avec Jean-Claude Schneider, qui a établi le texte français de cette réflexion, longue méditation poétique de Hölderlin sur Empédocle, ainsi qu'avec Philippe Leton, qui en est le metteur en scène et qui a transformé le texte dans une sorte de cérémonie de passage, valable universellement, si l'on peut dire, ce qui explique en même temps la collaboration avec Katsura Kan, spécialiste du buto japonais. Et c'est dans cette méditation que nous allons essayer d'entrer afin de comprendre quel était en quelque sorte l'enjeu de cette réflexion et en même temps quel est l'horizon qu'elle peut nous découvrir.
À quoi bon des poètes en ces temps de nécessité, a écrit Hölderlin. Alors en effet, à quoi bon Hölderlin aujourd'hui? Pour rien, en pure perte. Dans cet inachèvement, quelque chose de profondément achevé, qui, je crois, participe de l'émotion de ce texte.
C'est un des plus beaux textes que j'ai lus autour de la thématique du passage à la mort, mais non pas dans une vision mortifère de la chose, mais dans une vision la mettant en relation complètement avec le sens de la vie. Que cet auteur puisse avoir cette intuition et cette force poétique et cette fulgurance, puisque s'il en arrive au bout de la troisième version à n'écrire que trois scènes, c'est que je ne pense pas que c'est simplement parce qu'il aurait basculé dans la folie qu'il ne pourrait plus écrire, mais c'est parce qu'en trois scènes il a tout dit. et que donc ces trois scènes, trois premières scènes d'un acte 1 potentiel, et ben on a absolument l'espèce de mise en abîme d'un homme en face de lui-même et dans le choix de cette mort qui n'est pas simplement un suicide, mais de ce cheminement entre qu'est-ce que c'est que vie et mort.
Vous, j'en appelle à vous, sur la contrée, hors des lentes nuées, rayons ardents de midi, vous les plumes mûries, que je reconnaisse en vous le jour de vie nouveau. Car il est autre qu'autrefois. Fini, fini l'humain tourment, comme s'il me poussait des ailes, tant je me sens bien et léger ici en haut, ici. Et richassé, et joyeux, et magnifique, je demeure où le calice de feu, empli d'esprit jusqu'au bord, couronné de fleurs qu'il a tirées de lui-même, m'est offert par Etna, père hospitalier. Et quand l'orage souterrain soudain festif s'éveille jusqu'au siège des nues de son parent proche le foudroyant, vole à sa joie, alors me pousse aussi le cœur. Je chante avec les aigles ici, chant de nature. Il ne soupçonnait pas que dans l'exil une autre vie fleurirait quand il m'a outrageusement banni de notre ville, mon royal frère. Ah, il ne savait pas la visée, quelle faveur il me préparait quand il me délia des humains. Et libre me déclara, libre, comme les ailes du ciel. Cela prévalut donc. Cela s'est accompli. Et par malédiction donc s'arma le peuple qui était le mien contre mon âme. Et il me rejeta, et non pas en vain, éclata à mon oreille le sarcasme sans voix, le rire prosaïque, tandis que le rêveur, l'extravagant, allait pleurant son chemin. Par le juge des morts, je l'ai bien mérité. Et ce fut guérisseur. Le poison guérit le malade, et un péché est l'expiation de l'autre. Car j'ai beaucoup péché dès ma jeunesse. Les humains, humainement jamais aimés, servis comme l'eau seule et le feu aveuglément servent. Et donc ils ne m'ont pas humainement reçu. Oh, ainsi donc ils ont défiguré mon visage et m'ont traité comme toi, endurante nature. À ton tour, tu m'as, et de nouveau se lève entre toi et moi l'aube de notre ancien amour.
Il est connu que, je reprends tout poste de la philosophie, et que nous sommes des êtres par la mort du fait même que nous existons. C'est notre destin, c'est notre statut, c'est notre condition. Mais on a l'impression en même temps, il me semble, qu'à lire le texte d'Hölderlin, la mort n'est pas simplement le trépas objectif, mais que c'est comme un rite de passage, si on peut dire, vers grand point d'interrogation.
Alors, moi je l'entends, je ne sais pas vers quoi. Ce qui m'intéresse, c'est en quoi ce rite de passage est constitutif même du passage. Voilà, à partir du moment où nous sommes naissants, on pourrait reparler d'instinct lié, instinct de mort de Freud, nous sommes en chemin vers la mort, c'est-à-dire ce qui nous détermine, c'est justement cette notion de la finitude. Donc c'est ça qui m'a intéressé, parce que je crois que c'est ça qui, enfin, au jour d'aujourd'hui, j'enfonce des portes ouvertes, est terriblement nié. C'est-à-dire que l'homo consommatus absolu qu'on nous fait aujourd'hui être, l'éternelle jeunesse qu'on nous vend d'une manière assez faustienne, c'est comme si tout ça n'existait plus. De toute façon, ça va être tellement repoussé loin et on peut tellement intervenir. Que voilà. Donc moi, c'est vraiment dans cet espace-là, aussi parce que je suis à moitié de ma vie, donc maintenant... avec le parcours, avec ma propre vie, les enfants, d'un seul coup se posent d'étranges questions du reste du parcours. Je ne peux pas déterminer, mais quel est le sens? Donc c'est plutôt dans ce sens-là. Je n'ai pas du tout eu envie de m'emparer de ce texte pour savoir qu'est-ce qu'il y avait après ou en quoi ça faisait sens après, mais en quoi, à partir du moment où nous en sommes là et que, comme le dit aussi très bien Sartre, comment on passe de « on va mourir » à « tu vas mourir » et à « je vais mourir », le tu, c'est les proches, et puis le je, c'est quand on commence à être vraiment soi-même à l'intérieur de ce mouvement-là. Moi, je suis dans un moment où le je est là, et donc, voilà, d'un seul coup, m'emparer de ce texte, c'était essayer aussi de me dire quelque chose à moi-même, en face de moi-même, mais avec d'autres, parce que voilà, les autres sont aussi en soi, voilà, dans ce sens-là.
À ton tour, tu m'as, et de nouveau se lève entre toi et moi l'aube de notre ancien amour. Tu appelles, tu m'attires à toi tout proche, oubliance. Oh, comme une voile heureuse, je suis délié du rivage, le flot de l'abîme de moi-même. Et quand la vague pousse, et de son bras ma mère m'enlace, oh, que pourrais-je aussi, que pourrais-je craindre? D'autres, certes, s'en effraient, car c'est leur mort. Oh, toi, ma bien connue, l'enchanteresse terrible flamme, comme tu te dérobes ici et là, comme tu t'effarouches et te fuis toi-même, toi, l'âme du vivant. Vivant, tu me sembles, et visible. À moi, tu ne te caches, esprit lié, pas plus longtemps. À moi, tu deviens clair, car je ne le crains pas, car mourir, je le veux. Oui, tel est mon droit. Ah, Dieu, déjà, comme une aurore, alentour et au tréfonds, gronde le vieux courroux lointain. Plongez, plongez, ô plaintive pensée, cœur scrupuleux, maintenant plus besoin de toi, et plus d'hésitation ici. Le Dieu appelle. Et ce fidèle par trop fidèle, je dois le libérer aussi. Ma voix n'est pas la sienne.
Il y a un problème qui surgit assez vite lorsqu'on lit Hölderlin, c'est de dire, on a l'impression que c'est quand même quelqu'un, je dirais, de profondément religieux, d'une certaine manière, finalement quand même très très marqué par l'éducation qui était la sienne, une éducation protestante, dont je sache, il devait devenir ministre de tout le protestant. Et à travers ses poèmes, on a beaucoup l'impression d'une sorte de retour à un panthéisme, je dirais presque idéal, qui aurait été celui de la Grèce ancienne.
Oui, je pense que ça a trait à voir avec cette crise du religieux que traverse son époque, sa génération, et un peu comme aujourd'hui, peut-être le développement d'un imaginaire religieux qui serait sans église. Il a des allures de religieux athée, si ça peut avoir un sens. Mais on trouve ça chez Kleist aussi, on trouve ça chez Hegel aussi, c'est tout à fait... C'est en partage, je dirais, dans une génération, au-delà de Hölderlin.
Oui, mais ce qui est tout à fait curieux, c'est qu'on voit que finalement, par exemple, quelqu'un comme Hegel, quelqu'un comme Schelling font partie des gens avec qui il a un acquaintance, si on peut dire. Or, Hegel, d'une certaine manière, c'est le christianisme transposé dans l'histoire. Mm-hmm. Schelling va finir quand même par une philosophie de la révélation. Mm-hmm. Donc on a l'impression que précisément il y a une sorte de tension, je dirais, non pas entre le christianisme institutionnel, mais l'esprit du christianisme, ou le génie du christianisme, comme dirait quelqu'un d'autre, et précisément cette lumière venue du berceau de la Grèce.
Sans doute, oui, sans doute. J'avoue que j'ai rencontré Hölderlin, moi, à travers ses traductions des tragiques grecques. Et c'est vrai que j'ai toujours le sentiment qu'il se reconnaissait, je ne sais pas comment dire, qu'il reconnaissait la source de sa parole. Voilà, dans ces tragiques. Et on peut dire que c'est une intuition poétique, je ne sais pas si lui-même pouvait l'aurait justifié, je ne sais pas comment dire, idéologiquement, par rapport à son époque, c'est comme une intuition poétique que là était la possibilité d'un ressourcement de son être, et au-delà de son être, une réponse possible au désastre du monde.
Si vous posez la question du rite de passage, et lorsque vous me répondez que le passage, d'une certaine manière, consiste précisément dans le rite tel qu'il accomplit, même si c'est un rite d'écriture, je veux dire, c'est en même temps dire, je dirais, plus ou moins implicitement, qu'il s'agit en même temps d'un rite d'initiation ou d'une cérémonie initiatique. Et là aussi, initiatique, on sait bien, il faut le ramener à son sens premier, c'est-à-dire prendre le chemin, même à nouveau si on ne sait pas vers quoi nous amène ce chemin.
Dans ce sens-là, absolument. C'est-à-dire qu'à un moment, je trouve que finalement, dans cette grande angoisse existentielle qui est celle « je vais mourir » ou « je suis en train de mourir », probablement, en tout cas, moi je découvre, mais l'analyse aussi m'aide à ça, que c'est en même temps très angoissant et très libérateur. Alors là, on est complètement dans Empédocle. Parce que finalement, ça donne de la liberté. C'est-à-dire qu'on s'attache moins à un certain nombre de choses, à un certain nombre d'ego. On parlera peut-être du buto par rapport à ça, le renoncement du « je », que je défendais d'une manière ou d'une autre mordicus à 30 ans, au passage des 40 ans. Parce que d'un seul coup, les choses qui semblent plus essentielles, en tout cas les doutes ou les interrogations qu'on a, ne sont plus de la même nature. Et qu'effectivement, c'est une sorte de préparation, d'initiation à ce chemin dernier, duré, avec du temps, mais qui signifie autre chose.
Darlene nous dit que la mort est au cœur même de notre vie, pour ne pas dire qu'elle est l'essence de notre vie, ce qui, si on en tire toutes les conséquences, voudrait dire d'une part que notre véritable jeu, ce n'est pas notre moi, c'est beaucoup plus de l'ordre de l'autre et de l'autre inconnu, et d'autre part que ce qui est le plus plein en nous, c'est notre vie intérieure.
Vous l'avez très bien dit. C'est exactement ça. Non, c'est tout à fait ça. Ce n'est pas une réponse que j'aime. Vraiment, pas la prétention, c'est Olderlin qui nous dit quelque chose. C'est une façon de parler d'autre chose. Je trouve qu'on ne parle en ce moment que de la même chose en permanence, et c'est ça qui est très mortifère. Et comme on n'a aucune solution, et on est dans un déficit terrible de sens et d'idées, je préfère parler d'autre chose, où je crois qu'il y a, à défaut d'avoir des solutions, il y a la bonne façon de poser les questions.
Dire d'une certaine manière qu'à travers sa parole, Hölderlin essaie de dire quelque chose du secret ou du mystère du monde sur le plan religieux, et d'une certaine manière c'est comme une parole de l'origine qui viendrait remplacer la parole religieuse traditionnelle qui d'une certaine manière est déjà désuète à ce moment-là.
Peut-être, c'est assez étrange justement dans la mort d'Empédocle, cette figure de Manès, l'Égyptien, qui annonce la venue d'un sauveur, en quelque sorte, quelqu'un qui réconcilierait les dieux de la Grèce avec le dieu des chrétiens. C'est-à-dire qu'il y a aussi peut-être ce rêve d'une réconciliation, je sais pas. Quelque chose de cet ordre. Et Hölderlin se voyant lui-même à la place de ce sauveur, d'une certaine façon.
Oui, mais en même temps, ce qui m'intéresse, la question que je me pose, c'est précisément le statut de la parole poétique. Parce que j'ai l'impression que sa parole poétique, vous parliez tout à l'heure d'essayer de dire l'indicible ou l'ineffable, que cette parole poétique a elle-même finalement un statut religieux, pour ne pas dire éventuellement un statut mystique.
Probablement, mais ce que je ressens malgré tout, c'est qu'il y a quelque chose qui est lié à... Comment dire, ce qui vient troubler, je dirais, cette analyse que vous faites, c'est l'autobiographie, enfin, la dimension biographique au sens étymologique de cette écriture. Il y a comme une biographie de Hölderlin dans sa poésie, c'est pas que je cherche à traquer en quelque sorte les éléments biographiques là-dessous, mais c'est plutôt qu'il y a quelque chose qui vient troubler, je dirais, l'élan mystique, ou l'aspiration, cette aspiration-là. Moi, j'aime à penser plutôt qu'il y a chez Hölderlin, au fond, la figure classique du voyant, non pas pense en avant de son temps ou plus que son temps, mais pense mieux son temps par cette façon de nous ramener vers nos origines.
Oui, mais d'une certaine manière, est-ce que ce n'est pas la fonction quasiment traditionnelle de ce qu'on appelle le voyant ? C'est-à-dire qu'à la fois il voit dans l'avenir, à la fois il voit dans le passé le plus reculé. Pour lui, d'ailleurs, finalement, futur et passé sont la même chose sous son regard. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de bouclage du temps qui se fait, et dans lequel ce que nous prenons pour le passé peut être aussi bien notre avenir.
Oui, oui, en effet. En effet. C'est sa dimension prophétique, on pourrait dire, d'Hölderlin. Et c'est là, en ce sens-là aussi, qu'il est précieux, à mon avis, aujourd'hui. C'est-à-dire que qui prophétise aujourd'hui ? Qui ose prophétiser ?
Que Hölderlin est un poète profondément mystique. Lorsque je dis mystique, je veux dire par là non pas relevant de telle ou telle religion, je dirais même en grande partie dépassant toute religion quelle qu'elle soit et les images qu'elle nous propose, mais qui précisément s'affronte à l'énigme même de la vie et admet qu'il y a précisément de l'autre, je dirais presque avec un A majuscule.
Là aussi, je souscris tout à fait. Cette dimension mystique telle que vous la définissez, moi je l'entends très très fort, et c'est exactement, puisque finalement c'est un spectacle qui porte une parole spirituelle excessivement forte, mais qui est tellement loin des discours pseudo autour de la religion qu'on entend en ce moment, qui sont d'ailleurs des discours évidemment qui sont en rideau de fumée et qui permettent de ne pas parler d'autre chose et d'un état de désespérance d'une société. Donc oui, évidemment, je trouve que la portée spirituelle, c'est-à-dire que c'est profondément un spectacle qui porte une dimension spirituelle excessivement forte, qu'on ait une religion ou qu'on n'en ait pas.
Une question simple qui me bouleverse à chaque fois que je lis La mort d'Empédocle, c'est cette question du suicide, cette question de la liberté de l'individu devant sa mort, choisissant sa mort. Et cette réflexion vertigineuse, je dirais, sur cette place de la liberté du sujet face à sa mort, qui me renvoie à aujourd'hui plus sûrement que tout autre.
Mais en même temps, cette mort choisie par Empédocle, et là, on ne peut pas négocier. Ça fait partie de la légende, vraiment. Je veux dire, cette mort n'est quand même pas n'importe quelle mort. Se jeter dans la bouche de l'Etna, c'est quand même revenir d'une certaine manière au feu primordial. Mm-hmm. Et c'est en même temps recevoir la mort comme une sorte de sacrement.
C'est évident. C'est évident, mais il n'empêche qu'il y a que l'instant de la décision est une folie. Et que probablement Hölderlin aussi, à ce moment-là de sa vie, on est très près de ce moment de bascule dans sa propre folie, et son écriture en témoigne. Je crois qu'il y a dans ce choix pas seulement, disons, la version positive, on pourrait dire, que vous donnez, mais cette part d'abolition de soi qui témoigne de l'incompatibilité du poète avec le monde dans lequel il est.
Maintenant, ne tarde pas, n'y pense pas plus longtemps, péris. périt pour que le calme enfin et la clarté soient. Simulacre. Quoi? D'où? Qui es-tu, homme? Un misérable, moi aussi. De cette lignée, un mortel, comme toi. Envoyé juste à temps à toi qui te crois le préféré du ciel, pour te nommer du ciel, du Dieu qui n'est pas oisif, le courroux. Ah, le connais-tu? Je t'ai dit maintes choses près de ce Nil lointain. Toi? Toi ici? N'est-ce pas merveille? Depuis que je suis mort pour les vivants, les morts pour moi se lèvent. Les morts ne parlent pas quand tu les interroges. Pourtant, si une parole t'est nécessaire, entends. La voix qui m'appelle, je l'entends déjà. Ainsi on parle avec toi? Qu'importe la parole, étranger. Oui, étranger je le suis ici et au milieu d'enfants. Vous l'êtes tous, vous, Grecs. Je l'ai souvent dit autrefois. Mais ne voulais-tu pas me dire ce qu'il est advenu de toi et de ton peuple? Que me fais-tu souvenir? Que me rappelles-tu? Il m'est advenu ce qui doit advenir.
Je le savais.
Mais c'est là en même temps où se pose le problème de la folie de Hölderlin, dans la mesure où lorsqu'il écrit ce texte, on sait qu'il a déjà eu, disons, des périodes qui annonçaient cette folie, et qui éventuellement, il me semble, j'aimerais avoir votre avis, permet de lire cette folie autrement. À savoir que la folie consiste souvent, on le dit, dans une sorte de dépossession de soi-même, et la mystique consiste aussi dans une dépossession de soi-même. Donc en réalité, est-ce qu'on n'est pas là au point où je dirais de contact, en fin de compte, entre la folie à venir, et la position mystique de Hölderlin?
Absolument, d'autant plus qu'un grand nombre de très grands artistes sont toujours des artistes qui ont flirté avec l'état limite de cette folie. On pourrait citer Artaud, on pourrait citer Van Gogh, on pourrait citer un certain nombre de gens qui ont été très limites. Alors la définition de la folie, elle est large. Depuis Michel Foucault, on a fait quand même un certain nombre de progrès. Moi, je suis un ancien psy, d'ailleurs, donc j'ai travaillé avec des psychotiques, donc c'est pas non plus un hasard si je choisis souvent ce type de texte. Le degré de savoir est-ce que cette folie est en partie feinte et pas feinte, je crois que c'est pas la question centrale. La question centrale, c'est qu'effectivement, à travers ce type de poète, tous les gens que j'ai cités, on pourra en citer beaucoup d'autres, c'est vraiment la dimension de la poésie, on atteint les limites de ce qui est du pensable, de l'indicible, et on atteint du coup quelque chose qui se dit sur l'altérité humaine d'une manière très très forte. Mais on est dans cette frontière, dans cet état limite, qui n'est pour moi, il faudrait définir ce qu'est folie et souffrance. Et souffrance, elle y est en permanence. On ne peut pas nier la souffrance. Mais il y a quelque chose qui se dit, qui se crie, comme le tableau de Munch le crie, qui se crie de notre humanité, de notre douleur et de notre souffrance à travers ce type de parole limite.
S'attend pas forcément, et qui est ce Manès égyptien. Alors on sait très bien qu'il y a toute une tradition grecque du recours à l'Égypte en tant que terre de sagesse. Hérodote nous dit que les dieux grecs viennent de l'Égypte, Platon tient à certaines de ses. C'est à certains de ces mythes des prêtres égyptiens, Thalès était allé en Égypte, etc. Bon, il y a toute une tradition. Mais en même temps, on a l'impression que Manès, c'est quand même beaucoup plus que sa tradition.
Alors justement, on en parlait dans nos travaux, nos réflexions dramaturgiques sur le texte pour les répétitions. Il y a une vraie complexité de ce personnage pour comprendre sa fonction en quelque sorte, ce qu'il est et ce qu'il propose. Est-il celui qui propose en quelque sorte la réconciliation
une réconciliation possible du polythéisme grec avec le monothéisme du berceau oriental. Est-ce qu'il justement invite à un mariage impossible ou qui deviendrait possible entre cette communauté des dieux grecs et l'unicité du dieu sauveur. Voilà, c'est vrai qu'il apparaît comme un passeur, en quelque sorte, un passeur de religion. Je le vois un peu comme ça, comme une figure de... Mais à la fois un passeur et l'ordonnateur d'une synthèse. L'ordonnateur d'une synthèse. Beaucoup de gens très savants se sont penchés sur la question et j'ai l'impression qu'il y a un projet, là aussi, c'est toujours la même histoire, c'est-à-dire qu'il y a un projet, ce texte de la mort d'Empédocle, il est dans l'horizon du 19e siècle, du début du 19e siècle, il n'est pas avec des problèmes qui sont, je dirais, les problèmes religieux de ce début du 19e. Et donc il y a un projet hölderlinien, comme une espèce de contre-culture religieuse, on pourrait dire, qu'il développe à travers la figure de Manès, qui est vraiment très singulière.
La mort, la subite, elle est dès l'origine, tu le sais bien, pour les déraisonnables et tes semblables, d'avance décrétée. Tu le veux, soit. Pourtant, tu ne dois pas, insensé que tu es, aller en bas. Et ma parole médite-la, ivre que tu es. Un seul en a le droit à l'heure qu'il est, un seul, ennobli par la noirceur de ton péché. Il est plus grand que moi. Comme la vigne témoigne de la terre et du ciel quand, abreuvée de soleil souverain, elle s'élève du sol obscur, tel il pousse, né de la lumière et de la nuit. Autour de lui fermente le monde. Il n'est rien de mouvant et de périssable dans le sein des mortels qui ne soit agité au tréfonds. Le maître du temps, craignant pour sa domination, trône le regard sombre au-dessus du soulèvement. Son jour s'éteint et ses éclairs illuminent. Pourtant, ce qui d'en haut flamboie et qui d'en bas s'élance n'embrase que la discorde sauvage. Un seul, pourtant, notre sauveur, saisit serein les rayons du ciel et avec amour, il prend ce qui est mortel sur son sein et en lui s'apaise le conflit du monde. Les hommes et les dieux, il les réconcilie et ils sont proches enfin, comme autrefois.
Je me rends compte, comme ça, en parlant avec vous, en vous écoutant, à quel point je me suis lancé dans la traduction de Hölderlin. Pas aveugle, mais tourné vers la matérialité de son écriture. La connaissance que j'ai du texte est une espèce de connaissance presque matérielle, sonore. Je pourrais vous raconter le trajet des signifiants à l'intérieur du texte, la manière dont tel mot revient, avec telle métaphore, comment elle se décline, comment tel rythme s'impose à Hölderlin et revient dans une cadence à un moment précis et pourquoi ça fait sens. Finalement, la tension entre herméneutique et poétique, elle est toujours à l'œuvre dès qu'on traduit de la poésie, et Hölderlin en particulier. Basculer du côté de la poétique, franchement, en quelque sorte, sur le versant de la poétique, et repartir de cette approche, comment dire, qui appelle à la fois à l'observation concrète, il faut en croire ses yeux quand on lit Hölderlin. Parce qu'il faut vraiment en croire ses yeux. Il y a des moments où on ne peut pas croire. C'est même parfois incorrect sur le plan de l'allemand. C'est une langue qui est traversée, tiraillée, et qui est travaillée, qui est une langue étrangère dans sa propre langue, et qui du coup creuse ma propre langue à moi, qui fait de ma langue française une langue étrangère à moi-même. Comme si j'avais besoin je ne sais pas, moi aussi, de refonder en quelque sorte mon rapport à Hölderlin à partir de sa poétique et de sa poétique seule.
Oui, mais votre point de vue se défend très très bien. Je veux dire par là que lorsqu'on s'intéresse par exemple aux oracles de Delphes dans la Grèce ancienne, les textes que nous avons sont particulièrement énigmatiques et pourtant ce ne sont déjà que les retranscriptions versifiées de quelque chose qui était quasiment de l'ordre du borborygme. Je veux dire par là qu'apparemment, quand, disons, le dieu, on ne sait pas lequel, mais le dieu s'exprime, la langue se tord, ça devient une espèce de matériau hors norme, etc. Et ce que vous nous avez décrivé de la langue de Hölderlin, précisément, et le fait que vous y attachiez d'abord, c'est quand même essayer de savoir quelle est cette sorte de parole oraculaire, en quelque sorte, qui se forme au niveau même du langage et dans la patte du langage.
Oui, une dimension oraculaire et prophétique. Et en même temps, ce qui est très curieux, c'est le sentiment d'une... C'est curieux, on ne voudra pas me croire, mais je trouve une grande simplicité de Hölderlin. Je crois aussi, peut-être, j'espère que cette traduction aidera comme ça, à rouvrir le dossier, je dirais, de la traduction de Hölderlin, parce que c'est un poète, je crois, qui a été pas très bien traduit au départ, beaucoup commenté par les philosophes ensuite. Et finalement, il y a une espèce de... Je crois qu'il y a une réappropriation par les poètes à faire, les poètes français à faire de Hölderlin. Traduire un poète, Hölderlin, en se mesurant à cette tâche impossible de la traduction d'un tel poète. Mais pas du tout dans la tristesse ou le deuil de la perte de tout ce qu'on manquerait, mais au contraire, justement dans ce travail... que moi j'ai trouvé joyeux, comme je disais tout à l'heure en ouverture, en pure perte. Voilà, travailler en pure perte.
Puisque nous réfléchissions à propos d'Empédocle, on peut s'intéresser à un autre philosophe héritier de la tradition grecque, plus exactement de la tradition hellénistique, en même temps d'ailleurs que bien entendu il est héritier de toute la tradition judaïque, qui est Philon d'Alexandrie, dont vient de paraître une biographie écrite par Mireille Adas-Level aux éditions Fayard. Philon d'Alexandrie, ce philosophe né en à peu près 20 avant Jésus-Christ, encore vivant du temps de Caligula, qui a été le contemporain du Christ, même si par ailleurs il l'ignore, et qui a fait la synthèse véritablement de la tradition biblique, d'une part, sur laquelle il est profondément enraciné, et d'autre part, de la tradition hellénique ou hellénistique de la philosophie, et de ce point de vue, il est, on le sait, un lointain héritier de Platon. Et où on voit comment, précisément, à partir de la traduction grecque de la Bible, ce qu'il est convenu d'appeler la Septante, il met en place tout un commentaire des textes sacrés qui est un commentaire allégorique, d'une certaine façon, qui, d'une certaine manière, annonce à la fois tout le travail des néoplatoniciens à partir de Porphyre et de Jean Blic, et qui, en même temps, annonce le travail d'un certain nombre de grands auteurs chrétiens, comme Clément d'Alexandrie, qui, par exemple, dans ses Stromates, reprendra précisément cette manière de travailler allégorique que aujourd'hui nous appellerions en partie tout au moins symbolique. Nous avons évité l'erreur de croire à des dieux engendrés, car aucun être engendré ne peut être dieu dans sa réalité, mais seulement dans l'opinion, puisqu'il est privé de sa qualité la plus nécessaire, l'éternité. Dans des terres évidemment extraordinairement différentes, mais que l'on pourrait relier à tout un pan de la pensée hellénique,
je voudrais aussi attirer l'attention sur le tout petit livre, mais extrêmement lourd de poids et de réflexion, de Jean Lévy, Propos intempestifs sur le Chuang Tzu, aux éditions Alia. Dans la mesure où Jean Lévy, assez proche en cela de la relecture, par exemple, de Chuang Tzu par Jean-François Billetter, encore qu'il sait s'en démarquer, s'est trouvé, et ce n'est pas pour rien sans aucun doute qu'il a adopté ce titre de propos intempestifs, dont on ne peut s'empêcher évidemment de sentir des échos qui se réveillent en nous d'un certain nombre de textes de Nietzsche, et où donc Jean Lévy, se débarrassant en quelque sorte de toute la vulgate qui s'est accumulée sur Chuang Tzu, essaie de le lire au plus près du texte et de voir en même temps toutes les réflexions que cela peut engendrer dans notre époque moderne, et où on s'aperçoit que le Chuang Tzu, qui en principe est l'un des livres canoniques du taoïsme, considéré comme un texte mystique, est un texte qui nous introduit dans une profonde réflexion sur notre réalité, sur la réalité la plus immédiate, sur la réalité la plus triviale, et comment, dans cette trivialité, on peut trouver en fait une véritable profondeur. L'empereur du milieu, Wen Tuen, avait reçu ceux du sud et du nord. Ceux-ci se concertèrent sur la meilleure façon de le remercier. Les hommes, déclarèrent-ils, ont 7 ouvertures pour vivre, entendre, manger ou respirer. Lui seul n'en a pas. Et si on lui en perçait? Chaque jour, ils lui perforèrent un orifice. Au 7e jour, Wen Tuen avait rendu l'âme. Enfin, je voudrais terminer par l'évocation du livre de Marie-Louise von Franz, qui vient d'être réédité à la Fontaine de Pierre, puisqu'on ne le trouvait plus en librairie, l'interprétation des contes de fées, ainsi que d'ailleurs la femme dans les contes de fées. De ce point de vue-là, on connaît le travail de Marie-Louise von Franz, qui est de se saisir des contes de fées pour voir en quoi, dans leur matière légendaire, dans leur poids mythique en même temps, ils contiennent tout un certain nombre de leçons quant à la manière de mener notre propre vie, sur les horizons que nous pouvons nous donner, et donc en même temps le rôle initiatique qu'ils peuvent jouer, non seulement dans une vie d'enfant, bien entendu, mais aussi éventuellement dans une vie d'adulte. Et de ce point de vue-là, bien sûr, c'est une sorte de rafraîchissement que de retrouver les horizons de notre prime jeunesse, mais en même temps une réflexion sur notre propre destin ou sur notre propre vocation. Il faut toujours insister sur le fait que, lorsqu'on parle de la divinité, on n'affirme pas au sens métaphysique que Dieu ou la réalité ultime soit ceci ou cela, mais que l'image de Dieu se reflète en l'homme de telle ou telle façon, ou que la psyché inconsciente de l'homme lui renvoie telle ou telle image.
Les livres aujourd'hui. Philon d'Alexandrie de Mirayanas Lebel aux éditions Fayard. Propos intempestifs sur le Chuang Tzu de Jean Lévy aux éditions Alia et l'interprétation des contes de fées de Marie-Louise von Franz aux éditions La Fontaine de Pierre.